Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet particulier, c'est ce qu'on appelle les liens spirituels, d'accord? Et ça tombe bien, je pense que le Seigneur a bien dirigé les choses, parce que j'ai entendu des choses ce matin à la louange, et donc je pense que le Seigneur a bien dit. Les liens spirituels, ce que j'appelle les liens spirituels, évidemment je parle des liens spirituels démoniaques, alors je ne veux pas vous faire peur. Faire peur certains qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais je ne pense pas que ce soit le cas spécialement, mais je voudrais parler donc des liens spirituels démoniaques. Pourquoi ? Parce que on a commencé une prière là, mercredi, on s'est dit on va prier pour des cas difficiles, on va prier peut-être pour ceux qui se sentent liés quelque part, etc. Et donc je me suis dit non, j'avais déjà ça à cœur avant, d'ailleurs je dis c'est important de parler là-dessus. Et donc aujourd'hui je vais faire je vais appeler ça une introduction parce que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter comme ça en une heure ni en trois quarts d'heure. Hein. Ça va, d'accord? Alors je vais appeler ça une introduction, bien que je ne sache pas encore si je vais approfondir ça après ou pas, je ne sais pas. Laissez-moi le point d'interrogation, je ne suis pas certain. On verra si le désir s'en fait sentir ou pas. Donc je suis obligé de survoler certaines choses. Donc aujourd'hui, je vous le signale quand même. Ça va? Je vous le signale parce que j'ai un but. J'ai à cœur un but, c'est qu'on sache surtout comment se débarrasser de ce qui entrave notre vie tout simplement. J'ai envie de dire notre vie spirituelle, notre relation avec Dieu, etc. Mais notre vie spirituelle, c'est notre vie. Hein? D'accord ? Bon, ça va ? Donc, je voudrais quand même vous apporter une exhortation, je veux dire un encouragement, une prédication d'exhortation, mais il faut quand même un petit enseignement, c'est un minimum, parce que, alors pardon pour ceux qui connaissent, mais il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui ont besoin d'apprendre des choses. Ça va ? Donc je ne vais pas m'éterniser, mais je suis obligé d'y passer. Donc, je commence par ce que je vais appeler l'enseignement, dans le sens que, voilà, je vais vous dire c'est quoi. Qu'est-ce qu'on appelle un lien spirituel? C'est quoi qu'on appelle ça comme ça? Parce que c'est un peu du jargon chrétien, quoi. Vous voyez? C'est un peu un patois, du patois chrétien. Qu'est-ce qu'on appelle un lien spirituel démoniaque? Et même comment le reconnaît-on? C'est quoi qu'on appelle un lien spirituel démoniaque? D'accord? Eh bien, si vous croyez en Dieu, tout d'abord je vais dire ça, si nous croyons en Dieu, nous croyons aussi dans les puissances des ténèbres, enfin quand on dit on y croit, on croit qu'elles existent. Parce que croire en Dieu c'est plus que de croire qu'il existe, mais c'est de mettre sa confiance en lui évidemment. Mais nous croyons aussi qu'il y a un monde spirituel, alors il y en a qui disent toujours, mais moi ces histoires-là ça m'embête, oh on parle trop des démons, on n'en parle pas assez, tout ça, je veux dire ça, on en parle quand on doit en parler, puis c'est tout, c'est pas glorifier le diable que d'en parler, hein. Son ennemi il faut le connaître. Quand on ne connaît pas son ennemi, on se fait regarder en sport, regarder, il y a plein d'exemples dans la vie de tous les jours, son ennemi, le meilleur moyen de le vaincre, c'est de le connaître. Bon, alors, on ne va pas se priver d'en parler de temps en temps, parce que le but, c'est la gloire de Dieu, c'est pas de glorifier l'ennemi. Hein. Tout ça, je trouve que c'est un peu des bêtises de parler de tout ça. Alors, de manière assez simplifiée, je vais vous expliquer ce que c'est. Simplifié, parce que comme je vous dis, je ne vais pas m'éterniser non plus là-dessus, sinon on ne s'en sort pas. Eh bien, c'est tout simplement une emprise de Satan sur votre vie. Ça veut dire que Satan, le diable, les démons, le monde des ténèbres, l'occultisme, tout ça, peut avoir une emprise sur votre vie, dans un domaine de votre vie. Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit. Même dans le monde des chrétiens, même parmi les chrétiens. Alors, c'est très fréquent, évidemment, en dehors, par toutes sortes de choses, mais c'est aussi assez fréquent dans le monde chrétien, mais ce n'est pas toujours le cas non plus. Parce qu'il ne faut pas toujours me remettre sur Satan, ce qui revient de notre responsabilité, et voir des liens spirituels démoniaques partout. Parce que c'est toujours la même chose. C'est rare quand c'est équilibré. En général, il y a une exagération dans un sens ou une exagération dans l'autre. Ce n'est pas facile d'être équilibré. Et moi, j'ai juste envie de dire ceci. Écoutez, on peut supposer qu'on a un lien spirituel, qu'on a un blocage spirituel, qu'on a un blocage qui a une domination de Satan, comme ça, du monde occulte, des démons, ce que vous voulez, qui a un blocage de l'ennemi, qui a une emprise de l'ennemi dans un domaine de notre vie, on peut le supposer, et je vais en parler, on va voir comment on le reconnaît. On peut le supposer, mais il ne faut jamais l'affirmer avant d'avoir vraiment la révélation, le discernement. Quand on n'est pas sûr, on ne le crie pas comme ça, et bon voilà, il faut être prudent avec ça. Et puis alors, on voit, il y a des responsables dans les églises, on prie, etc. Et il ne faut pas se précipiter, commencer à crier au diable partout. Et d'une autre manière, il ne faut pas faire le contraire non plus. Vous voyez, il faut être équilibré, quoi. D'accord, ça va? Donc, une emprise de Satan dans un domaine de notre vie. Alors, je voudrais aussi vous dire qu'il y a plusieurs... il faut que vous sachiez ça, je sais qu'il y en a qui le savent déjà, mais je suis obligé de le dire. Il y a plusieurs niveaux d'oppression spirituelle. Il y a plusieurs niveaux d'oppression spirituelle. On pourrait dire sommairement qu'il y a un premier niveau, on va dire, auquel tout le monde est confronté, c'est le niveau de la tentation. Évidemment, Satan, le diable, est appelé le tentateur. Donc c'est son boulot. Il tente, il ment, surtout. Il suggère, etc. Donc c'est le niveau de la tentation. Il y a un niveau un peu plus, vous savez, on pourrait en mettre. Il y en a qui disent, quand on lit, il y en a qui disent il y a trois niveaux, il y a quatre niveaux. Vous savez, tout ça, c'est pas vraiment. Pour moi, je trouve pas ça super important. Mais ce qui est important, c'est de comprendre quand même. Ça l'est, ça ne l'est pas. Il faut quand même comprendre où on en est. C'est ça qui est important. Je vais dire qu'il y a un autre niveau, c'est le niveau du harcèlement. Ce n'est plus de la tentation, c'est du harcèlement. Vous voyez la différence? Inutile d'expliquer. M'étendre trop là-dessus, c'est vraiment du harcèlement. Vous vous sentez harcelé dans un domaine de votre vie. Ensuite, ça devient vraiment un blocage spirituel. Un blocage, il y a un blocage. Et moi, j'ai envie de dire, c'est surtout ça qu'on va appeler un lien. Parce que on se sent, à partir du moment où il y a un blocage, il y a vraiment, c'est bloqué, quoi. C'est bloqué. Il y a un domaine ou plusieurs domaines dans la vie, c'est bloqué. On est lié, on ne sait pas se détacher. On ne sait pas se défaire, on ne sait pas avancer. Et ça peut être au niveau des pensées, ça peut être aussi au niveau du comportement et des actions, d'accord? Il faut bien suivre, hein, ça va? Je sais que quand c'est enseignement, même si c'est sommaire, il faut bien suivre. Donc, on peut avoir un blocage spirituel au niveau des pensées, donc comme je vous l'ai dit, c'est quoi? Ça peut être différentes choses, évidemment, mais ça peut être des pensées de culpabilité. De culpabilité, évidemment, mal placée. Des accusations, on se sent accusé. Au niveau des pensées, vous voyez. Ça peut être une incrédulité aussi récurrente, vraiment une incrédulité, mais pas normale, quoi. Des mensonges. Vous voyez, un blocage, vraiment, à tel point qu'il y a dans nos têtes des mensonges. Ça veut dire des mensonges sur Dieu, des mensonges sur nous-mêmes, des mensonges sur les autres. Une façon de comprendre les choses, de voir les choses qui est fausse et dont on n'arrive pas à se débarrasser. Et au niveau des actions, évidemment, on peut avoir des liens spirituels, donc on peut avoir des blocages, je le dis autrement, au niveau de l'action, c'est-à-dire au niveau du comportement. Des péchés qui dominent. Alors vous allez me dire, penser c'est aussi péché, mais oui, mais voilà, je fais la distinction entre la pensée et les actions dans le sens... La peur de la prière, par exemple, vous voyez? Certains, il y a des problèmes, il y a une peur de la prière. Il y a un malaise dans la présence de Dieu. Quand il y a trop la présence de Dieu, on parle de certaines choses, il y a un malaise. Des problèmes dans les relations humaines. Certains, même chrétiens, ont toujours des problèmes avec des difficultés de relations, toujours des problèmes avec tout le monde. Voyez ? Des péchés qui dominent. Des problèmes de toutes sortes. Des traits de caractère exagérés. Indomptables. Agressivité. Manque de maîtrise de soi. Impossible de dominer certaines choses comme ça, c'est pas normal. Vous voyez, c'est pas normal. Il y a une espèce, plus que du harcèlement de la part de l'ennemi, il y a comme un domaine dans lequel on est tenu, ce n'est pas normal, parce qu'il faut être délivré à un moment donné. Et puis, évidemment, il y a le niveau d'oppression Par-dessus tout, c'est ce qu'on appelle la possession. On voit beaucoup on en parle dans les évangiles, des esprits mauvais chassés dans des cas de possession. Évidemment, voilà, il s'agit de personnes qui sont complètement sous le contrôle du diable, d'accord, et qui font des choses vraiment, voilà. Ça, c'est le niveau au-dessus de tout, quoi. Alors, il y a quelques signes qui peuvent nous mettre sur la piste. Tu vis des tourments obsessionnels. Il y a une confusion dans ta vie, ou des confusions exagérées, des choses semblables. Des souffrances, mais des souffrances qui sont incohérentes parfois, ou tellement répétitives, tellement... Parfois, il y a des personnes, on a envie de les appeler souffrances, comme on appelait... comme cette phrase qui dit « appelez-moi Marat, appelez-moi amertume ». Des souffrances, ben, on ne doit pas te confondre avec la souffrance quand même. Il y a certaines personnes, c'est à ce niveau-là. Bref, une désobéissance envers Dieu, je veux dire récurrente aussi. Vraiment, c'est une personne qui désobéit toujours. Des prières bloquées aussi, tout ça. Toujours, la prière bloquée. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tout ça, ce sont des signes. Mais comme je l'ai dit, il faut le discernement. Ça ne veut pas dire oui, ça ne veut pas dire non. Mais ce sont des signes. Voilà. Il faut être attentif, il faut savoir ces choses-là. D'accord ? Voilà. Je m'arrêterai là-bas, mais on peut s'étendre là-dessus, mais ça demande une étude biblique. Mais maintenant, je voudrais aborder un autre petit point qui est toujours, je rappelle toujours ça, un petit enseignement, c'est pourquoi se retrouve-t-on lié ? Pourquoi se retrouve-t-on bloqué dans certains domaines de notre vie ? Comment ça se fait ça? Alors que certains disent, mais je suis chrétien, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et puis certains disent, voilà, c'est comme ça. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. C'est parfois comme ça, oui, bien sûr. À la conversion, il y a des choses qui disparaissent. Et c'est normal, et c'est bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Si certains disent que c'est comme ça, eh bien venez avec moi, alors, vous allez voir. On va faire des visites ensemble. Vous allez m'accompagner, vous allez voir si c'est le cas. Et vous allez dire peut-être aux personnes qui ont des problèmes, vous allez leur dire, vous qui ne sont pas vraiment convertis, parce que toutes choses anciennes ne sont pas passées et que tout n'est pas tombé. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas comme ça. D'accord ? C'est être un peu naïf que dire ces choses-là. Voilà. Alors pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi je peux me retrouver lié ? Et je vais simplement énumérer, parce que je ne peux pas faire une liste exhaustive, évidemment. Ce n'est pas possible. Et ça, ce n'est pas possible. Mais je vais quand même citer certaines choses. Mais je voudrais vous faire, avant ça, je voudrais vous faire une petite parenthèse, quoi, je veux dire ça comme ça. Je voudrais vous dire, donner quelques petites choses qu'il faut savoir. Pardon. Premièrement, première chose, ce qui arrivera... Ou ce qui arrive à l'un n'arrivera pas nécessairement à l'autre. Ce n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui ont fait des pratiques occultes, des expériences occultes, spirituelles, occultes, d'accord, et qui vont se retrouver gravement perturbées dans leur vie chrétienne. On trouve des graves perturbations. D'autres qui sont passés par la même chose et qui n'aura presque rien. Mon avis, c'est le... Voilà, c'était ça, je pense. Mauvais contact, on dirait, oui. Voilà. Voilà, on ne peut pas... ce qui arrivera à l'un n'arrivera pas forcément à l'autre, on ne peut pas faire des conclusions comme ça. D'accord ? Ça, c'est important de savoir. Ensuite, je veux insister aussi sur le fait qu'un chrétien peut aussi avoir des problèmes d'ordre émotionnel ou des problèmes de santé sans qu'un démon soit forcément la cause de ça. D'accord ? Parce que sinon, on tombe dans l'exagération. C'est toujours le problème dans ce domaine-là, c'est l'équilibre, comme je vous l'ai dit. Deuxièmement, certains problèmes médicaux aussi peuvent ressembler à des problèmes spirituels. savoir ces quelques petites choses-là que je viens de vous citer peuvent nous aider à éviter beaucoup de dégâts et beaucoup d'erreurs. D'accord ? Je lisais par exemple une personne qui avait vraiment des problèmes, des crises mystiques, des comportements mystiques exagérés, je ne sais pas comment expliquer. Et puis tout de suite, évidemment, le pasteur pense à des liens spirituels, à des choses semblables, mais avant, la sagesse est venue de dire, écoute, puisque tu es soigné, lisons la notice de tes médicaments. Et dans le médicament, on trouve dans les effets secondaires, crise, je ne sais pas comment ils mettent ça, mais vraiment crise mystique, quoi. Des trucs, ah oui, parce que le cerveau, on en a un tous, en principe, je ne sais pas. En principe. Et voilà, et je lisais ça, et c'était vraiment un article très intéressant, et avec l'accord du médecin, parce que ce n'est pas un pasteur qui décide ça, il faut l'accord du médecin pour arrêter un médicament, eh bien, le médicament arrêté, les crises se sont arrêtées aussi, et voilà. Pas d'esprit, n'est-ce pas ? Il faut être équilibré, ça va ? Bon, néanmoins, donc, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, mais j'aimerais bien énumérer quand même quelques causes potentielles des comportements et des choses qui ont pu créer dans les vies des liens spirituels. Et je vais le faire rapidement, et j'y reviendrai. Si je parle encore de ça, j'y reviendrai, parce qu'on sera obligé, parce qu'il y aura d'autres personnes. Alors, les liens spirituels, les liens démoniaques, autrement dit, la possibilité qu'on donne au diable et au monde occulte de nous tenir dans un domaine ne vient pas toujours d'une action consciente de notre part, c'est-à-dire d'une action... on ne le fait pas volontairement. Évidemment, si on fait des pactes, il y a des gens qui font ça, des pactes, des vœux. Ils invoquent vraiment le monde des ténèbres, ils invoquent Satan, ils font des pactes, alors il ne faut pas s'étonner, évidemment. Mais ce n'est pas toujours un acte volontaire comme ça. Souvent, ça arrive souvent que ce n'est pas inconscient, mais les gens ne réalisent pas la portée des actes qu'ils ont faits, ça va. Et souvent, ces liens spirituels arrivent à cause de vœux qu'on a faits, de pratiques qu'on a faites, de promesses qu'on a faites, d'intimité physique aussi, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a par exemple les consultations auprès d'un guérisseur, de magnétiseur, de radiesthésiste, de sorcier, de sourcier aussi, d'accord ? Vous savez, ceux qui cherchent des sources, des choses, de voyants, de spirites, de diseuses de bonne aventure et toutes ces choses-là, d'accord ? Il y a aussi l'imposition des mains par une personne qui dit, vous savez, vous vous êtes fait imposer les mains, vous acceptez que quelqu'un qui dit avoir des pouvoirs héréditaires ou on ne sait pas trop d'où ils viennent, et il vous impose les mains. Il ne faut pas se laisser imposer les mains par n'importe qui. Et quand le don ne vient pas spécifiquement et bien précisément du Saint-Esprit, eh bien, c'est douteux, tout simplement. Très douteux même. Peut-être aussi, on a, parfois certains peuvent dire qu'ils ont eux-mêmes, j'ai déjà entendu ça, mais j'ai un pouvoir, j'ai eu quelque chose, là, je ne sais pas comment c'est venu, etc. Permettez-moi de douter et de douter qu'il y ait un lien spirituel, parce que c'est un domaine qui est dangereux. Quand on parle d'hérédité, etc., c'est souvent mauvais. Voire toujours, même si un membre d'une autre, un membre de votre famille, etc., quelqu'un qui dit qu'il y a des dons comme ça, des pouvoirs et des choses comme ça, tout ça sont des choses souvent qui engendrent des liens spirituels et des harcèlements spirituels et des choses semblables. La communication, évidemment, quand on a eu des antécédents, on a communiqué avec des êtres dits spirituels. Certains communiquent avec des êtres dits spirituels ou avec les anges ou des choses semblables, culte aux anges, etc. Tout ça crée des liens démoniaques. On ouvre des portes, c'est ça en fait. C'est tous des domaines dans lesquels on ouvre une porte, on donne l'accès au diable, on lui donne l'autorisation et le droit de vous mettre le grappin dessus. D'accord ? C'est ça. Alors, j'essaie d'avancer rapidement là-dedans. Des alliances faites avec le sang. Évidemment, des alliances, tout ce qui est alliance démoniaque, etc. Qui se donne ainsi ou pas d'ailleurs. Toute pratique occulte ou ésotérique, évidemment c'est vague, mais je ne peux pas non plus tout citer. Détention, attachement à des objets fétiches ou auxquels on prête un pouvoir quelconque. Ça crée des liens spirituels, ça donne le droit au diable de vous mettre le grappin dessus dans un domaine de votre vie, parce que vous mettez votre confiance dans un objet. Ça peut même être une Bible, hein. Imaginez. Ah ben oui, ça pourrait même être une, ça peut être n'importe quoi. Consécration à de faux dieux, vous avez été consacré à de faux dieux, à des idoles, consacré à des saints, consacré à la Vierge Marie. Ça peut créer des liens spirituels démoniaques. Pratique du mensonge. Je lis parce que je ne peux pas me rappeler de tout. Hein. J'ai péché non confessé, péché non abandonné. Ah ouais. Refus de pardon. Refus peut-être de demander pardon aussi. Ça peut créer des liens spirituels démoniaques. Colère. Une vie de colère. D'amertume, de convoitise, l'argent, tout ça, toutes ces choses peuvent créer des liens spirituels. Les abus sexuels, parfois même des victimes d'abus sexuels peuvent avoir, évidemment, vous allez me dire, elles ne sont pas responsables, bien sûr qu'elles ne sont pas responsables, tout simplement, il faut aider la personne. Tout ce que la Bible appelle avec insistance, parce que la Bible insiste sur l'immoralité sexuelle, relation adultère, relation sexuelle hors mariage, toutes ces choses-là ouvrent la porte aux puissances des ténèbres. Voilà. Alors, ce n'est pas pour faire peur, au contraire. C'est pour dire qu'il y a des solutions, c'est tout. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous libérer et pour nous affranchir. Ah, ben alors, tout va bien. Donc voilà, je ne pouvais pas ne pas vous citer ces choses-là. Et peut-être si on revient là-dessus, je serai obligé encore de les citer à nouveau parce qu'il y a beaucoup trop d'absents et il faut que les gens entendent. Mais aujourd'hui, et là, je voudrais vous dire maintenant, c'est surtout une exhortation que je voudrais vous faire. Puisqu'on prie, puisqu'on dit qu'il y a des gens ici, qu'on sent qu'il y a besoin de prière, il y a des cas difficiles, eh bien je voudrais aujourd'hui vous faire une exhortation. Et c'est particulier. Et j'aimerais insister aujourd'hui sur cette source, ce qui donne accès au diable. D'accord ? La source principale de l'accès au diable dans nos vies, c'est le doute et le mensonge. Et je vais vous expliquer. Et je voudrais insister là-dessus aujourd'hui. Le doute et le mensonge, et je vais mettre ça en opposition, évidemment, avec la vérité et l'obéissance. Je vous lis un texte, donc, dans Genèse, si tu veux bien l'afficher, s'il te plaît, Lara. Dans Genèse, chapitre 3, et le verset 1. Premier. On voit dans ce texte, vous avez vu, hein, j'ai bien séparé, hein, obligé de faire obligé, ouais, parce que j'aurais préféré tout de suite passer à l'exhortation, mais obligé, façon de parler, de faire cette mise en bouche, ce petit enseignement. Mais maintenant, je voudrais vraiment que le Saint-Esprit nous touche. La première apparition, on va dire comme ça, la première fois où le diable ou Satan est cité dans la Bible. D'accord ? Et on l'explique comme ça, on dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, et on parle du diable évidemment ici, hein, on parle de Satan, il dit à la femme, il dit à Ève donc, « Dieu a-t-il réellement dit ?» Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la catastrophe. Dieu a-t-il réellement dit ? Et puis alors, il pose sa question. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Ça, c'est la catastrophe. La femme répondit au serpent. Nous mangerons des fruits des arbres... Comment ? La femme... Oui, c'est ça. Nous mangerons des fruits de l'arbre du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, pardon, Dieu a dit... Ah, pourtant, elle commençait bien. Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Elle commençait bien pourtant. Enfin, il y avait quelque chose quand même de bien. Malheureusement, le diable continue. Première chose donc, il pose une question pour vous faire douter. Deuxième chose, Quand vous répondez, vous êtes déjà un peu dans le doute, parce que c'est ce qui se passe et on s'aperçoit à cause de la suite de ce qui se passe. Hein. Il y a du doute là. Et alors il insiste et dit, mais non, non, c'est pas vrai. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Donc le diable, il se permet de poser des questions dans ta vie. Et c'est ça, c'est là-dessus que je voudrais insister aujourd'hui. Le diable, voilà comment il fait, voilà comment on pêche, voilà comment toutes ces choses-là, on les fait. Toutes ces choses-là les erreurs qu'on a faites, les choses qui nous lient, les choses par lesquelles on est passé et à cause desquelles maintenant nous sommes liés dans un domaine de notre vie, attachés, bloqués dans un domaine de notre vie. Pourquoi on les fait? Pourquoi peut-être aujourd'hui encore vous avez des choses que vous pratiquez, des comportements que vous avez? Pourquoi? Parce que vous écoutez les suggestions du diable. C'est pour ça, c'est parce qu'on écoute les suggestions du diable. Parce qu'il est là. Alors, vous allez me dire, il n'y a pas que le diable. Je sais bien, il n'y a pas que le diable, il y a nous aussi. Mais une fois que quelque chose est semé dans notre cœur, ça revient, hein? Une fois que le doute est semé, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que vraiment c'est grave si tu fais ça? Est-ce que vraiment c'est grave si tu as cet objet chez toi là? Mais oui, c'est grave, c'est peut-être pas grave, mais si tu n'oses pas le jeter, alors c'est grave, c'est que tu y tiens quelque part. Vous voyez? Bon, il faut discuter de tout ça, évidemment. Peut-être on peut parler après, parce qu'il y a des choses, parfois, c'est des bêtises, hein, mais voilà. Parce que l'ennemi aussi joue avec ça, vous voyez? L'ennemi, ce qu'il fait, en fait, quand tu es clean, il t'accuse. Quand tu n'es pas clean, il dit c'est pas grave, c'est pas grave. C'est tout, il ment tout le temps. Il est à la confusion. C'est pour ça que je vous ai dit, un des signes pour reconnaître les liens spirituels, c'est la confusion. Parce que c'est son boulot à l'ennemi. C'est mentir et c'est semer la confusion. Donc voilà, il fait son boulot, il dit, ah, est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit, tu dois te marier? Est-ce que Dieu a vraiment dit, tu ne dois pas vivre comme ça? Est-ce que Dieu a vraiment dit, ouais, mais si tu ne fais pas comme ça, ta vie, elle ne va pas aller? Est-ce que Dieu a vraiment dit, tu dois prendre ce chemin-là? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Et puis non, tu te dis, oh, c'est pas grave. Et puis alors, la deuxième étape donc, qu'il fait, c'est dire, non, ce n'est pas vrai. Donc Dieu ment. C'est ça que le diable dit. Dieu ment. Ah ouais, c'est ça. Dieu, enfin, Satan dit, non, vous ne mourrez point. Et puis après, il dit, alors il explique, vous voyez, ça, ce sont les raisonnements. Voilà, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça que la Bible dit. Il faut comprendre. C'est imagé. Et patati, et patata. Mais Dieu sait, alors il explique, c'est le raisonnement. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et puis alors là, le doute est en train vraiment de prendre racine dans le cœur d'Ève. Et puis la femme vit. C'est le verset suivant, Ève vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Comment elle l'a vu ça, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est dit. Elle prit de son fruit, elle en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors là, qu'est-ce qu'il y a à dire? Quand l'ennemi suggère des choses, qu'il sème le doute sur la parole de Dieu, sur les vérités bibliques, quand il te dit « c'est pas grave », quand il te dit « tu peux faire ça », c'est pas grave, quand il te dit « tu n'es pas obligé de faire comme ça », c'est pas grave, tu as besoin de repos, etc., etc., quand il commence à mettre le doute en toi, que tu ne crois plus vraiment, que tu n'es plus sûr que ce que Dieu te dit est juste. Après, c'est le mensonge qui prend racine. D'accord? Jusque-là, on suit. Après, tu commences à voir des choses qui te paraissent évidentes. L'ennemi commence à te mettre d'autres versets et tu vas mal les comprendre. Il va mettre devant toi des évidences, il dit, mais tiens, non, c'est vrai tout compte fait. Lui aussi, il fait ça. Et peut-être tu vas, tu vas dire, mais tiens, tu comptes fait, ça ne va pas plus mal comme ça. J'ai déjà entendu même des gens qui disaient, depuis que je ne vais plus à l'église, ça va mieux. Mais ça ne m'étonne pas. Dans certains cas surtout, ça ne m'étonne pas. Parce que c'est un moyen d'être... Quand l'ennemi te perturbe quand tu es dans la présence de Dieu, ben, ne sois plus dans la présence de Dieu, tu ne seras plus perturbé. Non ? C'est juste, non ? Voilà un exemple, peut-être un peu simpliste, mais vrai. Et voilà. Et donc l'ennemi commence à mettre devant toi, et tu commences à voir des évidences devant toi, et tu dis, mais non, tout compte fait. C'est vrai, c'est bon ça, c'est pas mauvais ça. Voilà le travail de l'ennemi, voilà son boulot. Résultat, le péché. Elle prit le fruit, en mangea, et en plus, elle contamine son mari. Alors c'est pareil. Tu permets au doute de s'installer dans ton cœur, le doute te fait prendre des mauvaises décisions, te fait douter de la puissance de Dieu, de sa présence, et non seulement tu détruis ta propre vie, mais tu détruis aussi ton entourage et ta propre famille. Voilà. Le diable a fait son boulot. Il s'ensuit quoi ? La malédiction ? Oui ou non ? On dit, ah, nous sommes bénis, il n'y a plus de malédiction. Ouais, d'accord. Ok, moi je veux bien. Mais la maladie, la mort, c'est quand même pas une bénédiction, quoi. Ça vient de ça. Voilà. Ça vient de ça. Le péché, c'est quoi le péché ? Merci, j'attendais. C'est manquer la cible, c'est manquer le but. C'est ça que la Bible appelle péché. D'accord ? Évidemment, on sait que ce que c'est désobéir, c'est faire... Il y a plein de péchés, évidemment, qu'on peut citer. Mais principalement, on comprend mieux comme ça, c'est manquer la cible. Et la cible, c'est quoi ? C'est ressembler à Christ. Et manquer la cible, donc, c'est péché. Et le péché donne droit... Pardon, le péché donne le droit aux démons de mettre un lien sur vos âmes. Le péché, donc et tous ces mauvais choix, donnent le droit au diable de mettre une emprise sur ta vie. Quand tu fais des mauvais choix, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, tu laisses l'ennemi mettre en toi le doute, tu laisses ce doute pénétrer et s'accrocher, et puis tu vis comme ça, eh bien... voilà, les actions, les péchés, la résultante de ça, c'est que l'ennemi a le droit de te tenir dans tel et tel et tel et tel domaine. Et puis il passe de la tentation au harcèlement, et il passe du harcèlement à des véritables blocages. Tu es lié, tu es tenu, et puis tu ne sais plus faire ce que tu dois faire. Quand Dieu te dit, quand tu es convaincu que Dieu te dit, va à droite, tu ne sais pas y aller. Va à gauche, tu ne sais pas y aller. Vous avez remarqué donc que la première intervention de Satan dans la Bible, c'est une question. C'est une question. Mais c'est ça, Satan. Satan, c'est un poseur de questions. Et bon, on peut poser des questions, des fois, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a le genre de questions. Satan, c'est un poseur de questions. Et souvent, les gens à problème dans les églises, ce sont des poseurs de questions aussi. Parce qu'ils ne sont pas dirigés par Dieu, voyez ? Des poseurs de mauvaises questions. Ouais, mais pourquoi ? Et toujours contesté. Et c'est comme ça. Et toujours contesté. Toujours. Satan est un poseur de questions. Et celui qui ressemble à Satan, il pose toujours des questions aussi, mais pas les bonnes questions. On pose une question quand on ne connaît pas la réponse. Ou quand on veut contester une vérité, quand on veut contester quelque chose d'établi. Et c'est ça que l'ennemi fait. Poser des questions pour contester ce qui est vrai et ce qui est juste. Or Dieu n'est pas un poseur de questions, mais Dieu est un Dieu qui pose Ah, des affirmations. Dieu est un Dieu d'affirmation et nous devons être semblables à lui. Amen. On doit être les imitateurs de Jésus-Christ et dire des vérités. Rappelez-vous comment, quand Jésus a été tenté dans le désert, rappelez-vous comment il a répondu par des affirmations. Et c'est ce que le diable disait. Il citait des versets de la Bible. Parce que la manière dont le diable ment, c'est une manière subtile, parce qu'il met des versets hors contexte. Et parfois, vous avez l'impression que c'est complètement la vérité, complètement, parce que c'est dit. Ça peut être même que l'intonation. Voyez ? Dieu est un Dieu d'affirmation. Moi, je crois, je confesse et je dis ce que la Bible dit, parce que c'est la vérité. Alors voilà. Le temps passe et j'arrive déjà à quelque chose qui est important parce que c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est ceci. Comment être libéré de ces liens alors ? Puisque nous prions pour que pour des cas difficiles. Et ce mercredi encore, nous allons continuer, on va prier pour des cas difficiles, on va prier peut-être contre des liens spirituels, etc. Mais comment on doit faire alors ? Comment on doit faire ? Eh bien, je vais vous dire ceci. Et c'est bien là un des buts de ma prédication aujourd'hui, de mon enseignement aujourd'hui. C'est qu'effectivement, la prière est très efficace. Et même le jeûne et la prière sont très efficaces. Et on va prendre un texte dans Matthieu 17. On ne va pas le lire tout. Mais on voit ici, bon, déjà au verset 17, on voit que quelqu'un qui vient trouver Jésus et il dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique, il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu, et puis il tombe souvent dans l'eau également. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu chasser les démons, ils n'ont pas pu. » Et puis Jésus leur reproche leur incrédulité, etc. Puis alors on arrive, et il dit, « Mais si vous aviez eu la foi, vous pourriez déplacer des montagnes. » C'est là, à ce moment-là, que Jésus cite ce verset-là. D'accord ? Donc, on voit là la puissance de la prière et de la foi. Ben, la puissance par le nom de Jésus-Christ, évidemment. Et puis, au verset 21, il dit ceci, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Alors, comment être délivré ? Comment être libre ? La prière, bien sûr. C'est ce qu'on fait le mercredi. La prière. Le jeûne, parfois. Il faut vraiment une prière, ça veut dire que ce n'est pas « Oh Seigneur, s'il te plaît », ce n'est pas une incantation. C'est un combat dans la prière. « Seigneur, Seigneur, délivre-le, agis. » Il y a une prière d'intercession, il y a une prière de combat. D'accord ? Parce que le jeûne, ça implique un temps de prière, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement une prière de délivrance à un moment ou à un autre. Et je ne pouvais pas, bien sûr, parler de ça sans parler de la prière. Mais, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas que la prière pour être délivré. Et des fois même, je vais vous dire que la prière ne sert à rien. Des fois, la prière ne sert à rien. Ah, ça vous choque ? Ouais ? Eh bien non, je vais vous expliquer pourquoi. Est-ce que la Bible ne parle pas des obstacles à la prière ? Chantal, la Bible parle de ça, hein ? Tu dis parce que tu réponds, donc j'ai interagi avec toi. Voilà, la prière parle des obstacles, la Bible parle des obstacles à la prière, non ? D'accord ? La prière parfois est inutile. Hein, d'accord ? Il y a même un proverbe, je vous l'ai cité il n'y a pas longtemps, je pense, que celui qui se détourne son oreille pour ne pas entendre la loi de l'Éternel, eh bien sa prière même est une abomination, c'est pire que de ne pas l'entendre. C'est même une abomination, sa prière. Parce qu'il ne veut pas écouter. Il ne veut pas entendre. Et ce verset, finalement, il est encore bien à propos aujourd'hui. Et ça, c'est important. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. On va prier mercredi. On va prier pour ceux qui ont besoin d'être délivrés, qui ont besoin d'être déliés, qui ont des fardeaux. Mais il faut savoir que la prière seule ne suffit pas pour la plupart du temps. Parfois, oui. Parfois, oui. Parce que parfois, des gens peuvent être tenus, liés dans des domaines, et ce n'est pas de leur faute. Parfois, on les a consacrés à la Vierge Marie, des choses semblables. Je ne sais pas, parfois ça peut créer des liens. Peut-être des fois, ils sont héritiers d'une famille de sorciers, de tout ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, il y a des choses comme ça. Ils ont été victimes peut-être aussi, comme je l'ai dit, d'abus sexuels, de choses comme ça. Et alors oui, bien sûr, la prière est efficace. Bien sûr. Et c'est vrai, on peut se retrouver aussi dans des endroits, la Bible en parle de tout ça, et puis on peut même se retrouver dans des endroits où il y a des présences démoniaques. Mais c'est pas compliqué, vous priez, puis c'est tout. Ça, c'est pas compliqué. Mais là où c'est compliqué, c'est quand vous vous dites, mais pourquoi ça ne marche pas ? Ben, je vais vous dire pourquoi ça ne marche pas. Parce que la prière n'est pas le seul moyen d'être délivré. Quel est le moyen, pour moi, et peut-être que je vais vous en reparler, je sais pas, parce qu'aujourd'hui, bon, ben voilà, le temps passe. Le moyen pour être délivré, je vais vous le lire, un autre moyen. Jean, chapitre 8, verset 32. Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité vous affranchira. Vous voyez même au verset 34, parce que ça appuie un peu ce que j'ai dit jusqu'à présent là, vous voyez. Jésus dit, en vérité je vous le dis, le répliqua-t-il. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez, celui qui se livre au péché devient esclave du péché. Et il finit par être sévèrement attaché. C'est de là que viennent les addictions, etc. Bon, évidemment, il y a des addictions qui ne sont pas seulement spirituels, évidemment, qui sont aussi, on peut dire, psychologiques. Et bon, voilà, enfin, je sais pas, on ne va pas commencer à peser la part. Voilà, et on sait qu'il y a des choses qui se passent dans le cerveau aussi, mais voilà. La vérité, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je pratique ce que je crois. Ok, je pratique ce que je crois et inversement, je ne pratique pas ce que je ne crois pas et ce dont je doute. C'est très difficile de mettre en pratique dans ma vie des choses dont je doute. C'est pour ça que Jacques dit que celui qui doute ne croit pas obtenir quelque chose de Dieu. Quand il parle, il dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous, et il lui sera donné, et puis c'est tout. Mais il dit, attention, qu'il la demande sans douter. Parce que celui qui doute est semblable aux flots de la mer qui sont agités. Ça veut dire quoi, ça? Est-ce que ça veut dire qu'on doit avoir une foi? Une grande foi? Non, Jésus parle que si on avait une petite foi, on déplacerait les montagnes. Non, ça veut dire ça, que si on est visité par les doutes, si même on a une petite foi, on doit la mettre en action. Ça veut dire que même si on est visité par les doutes, on ne doit pas marcher par la chair, mais on doit marcher par l'esprit. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est ça. Quand Jacques dit que qu'une personne semblable ne recevra pas quelque chose de Dieu, c'est pas parce qu'elle est visitée par le doute. Tout le monde est visité par le doute. Tout le monde. Alors personne ne recevrait rien. Mais quand Jacques parle de cette personne-là, il veut dire que cette personne-là, c'est une personne instable. Vous voyez, comme les flots de la mer qui sont agités par le vent, etc. C'est de ça dont Jacques parle. Et une personne instable, qui un jour dit oui, qui le lendemain dit non, elle ne reçoit pas, parce qu'elle ne met pas en pratique. Quand l'ennemi vient lui suggérer des choses, il dit ouais, pourquoi pas. Puis il dit, oh, pourtant hier, la prédication, c'était pas moi, hein. Il prêchait, évidemment, forcément. Ah, la prédication m'a touché, mais je ne sais pas. Instable. Un an après, on se retrouve. Toujours pareil. 2 ans après, on se retrouve. Toujours pareil. Vous voyez ? n'y a pas que la prière. La prière est efficace, mais parfois inutile. Parce que la vérité nous affranchit. La vérité, c'est dire ce que Dieu proclame, ce qu'il dit. Parce que Dieu est je vous l'ai dit, Dieu n'est pas un Dieu de questions, mais un Dieu d'affirmation. La vérité, c'est ce que Dieu affirme. C'est ce que Dieu affirme. Quand Dieu affirme, tu es une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Quand Dieu affirme, tu es un enfant légitime, tu es mon fils, ma fille, c'est la vérité. Mais quand Dieu affirme aussi, tu veux la bénédiction, voici le chemin qui y mène. Tu veux des problèmes, même la malédiction, si on peut dire comme ça, voilà le chemin qui y mène. Eh bien, sois sûr que si tu prends le chemin qui est le mauvais, tu vas arriver à des mauvais résultats. Seulement, Satan, lui, son boulot, c'est de te faire choisir la facilité. Voilà. Alors, que faut-il faire? Eh bien, l'obéissance. J'ai dit, qu'est-ce qui s'oppose? Qu'est-ce qui s'oppose au doute et au mensonge du diable? Eh bien, la vérité de Dieu et l'obéissance qui en découle. Voilà le moyen d'être délivré. En plus de la prière. En plus de la prière. Parce que, attention, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas prier. C'est pas ça que j'ai dit. Parfois, la résistance est forte. Parfois, justement, le péché nous tient. Et il faut une prière. Mais je vais vous dire que, puisque la prière, et puisque la Bible dit que la prière du juste est vraiment d'une grande efficacité, alors si tu as jeûné, si tu as prié, si tu as insisté même dans la prière, si on t'a imposé les mains, et que le problème demeure, qu'est-ce qui se passe alors? Vous avez une réponse, vous? Qu'est-ce qui se passe alors, si le problème demeure? Peut-être la vérité ne m'a pas affranchi. Parce que puisque la prière est efficace et qu'elle n'a rien donné, peut-être je n'ai pas pris mes responsabilités. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme. Dans 1 Pierre 5, verset 9, si tu veux l'afficher. Voilà, c'est une partie de la phrase. Résistez au diable avec une foi ferme. Est-ce que tu as résisté au diable avec une foi ferme? La vérité vous affranchira. Je vais terminer. Reconnais ton péché. Dénonce-le. Dénonce-le. Brigitte l'a dit tout à l'heure aussi. Reconnais-le. Dénonce-le. Confesse-le. Parce que pour que la vérité vous affranchisse, il faut faire ça. La vérité, en fait, cette vérité-là, c'est la vérité sur toi-même. Je ne dis pas oui, mais, comme Adam a fait, c'est la femme qui m'en a donné. Et la femme a dit, oui, mais c'est le serpent qui m'a dit. Là, il n'y a pas de délivrance. Vous voyez? Oui, mais c'est parce que moi, j'en peux plus avec lui. Moi, j'en peux plus avec ma femme. Moi, j'en peux plus avec mon mari. Moi, j'en peux plus avec cette église. Oui, mais. Non! Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Et de la même manière, reconnais, confesse ton péché et abandonne-le. Et ne trouve pas des excuses. Ah oui, c'est ça, c'est la vérité, vous voyez, la vérité vous affranchira. Ça, c'est une part des choses. Je sais que ce n'est qu'une part. L'autre vérité qui vous affranchit, c'est de savoir ce que Dieu dit, et là j'en ai déjà parlé, ce que Dieu dit, les affirmations qu'il dit, les affirmations positives qu'il dit sur ce que tu es, sur qui tu es, sur la puissance qui est en toi, la puissance qui ressuscite à Christ d'entre les morts, qui est en toi, qui est en nous. Et ça, c'est l'autre vérité qui est opposée à ce que Satan dit. Oui, mais tu n'es rien. Oui, mais tu n'y arriveras jamais, etc., etc. D'accord? Je ne peux pas m'étendre encore longtemps là-dessus. En conclusion, voilà, Satan sème le doute et le mensonge. On lui prête attention. On n'est pas ferme dans la vérité. On doute et puis on pêche et puis on se retrouve lié. D'accord? Vous l'avez compris? Je l'espère. Tu culpabilises quand tu ne l'es pas. Et quand tu es coupable, ben le boulot de l'ennemi, je vous le répète, c'est de dire que tu n'as rien fait, que ce n'est pas grave. On avait lu, il y a déjà plus d'un an, je me rappelle que je vous avais lu ce texte aussi dans Éphésiens, au chapitre 6, verset 16, qui dit, vous voyez ce passage qui dit, prenez les armes, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, etc. Et puis, dans les armes que nous devons prendre contre l'ennemi, il dit aussi, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Alors, il faut le prendre. Tu en as un bouclier, tu as une petite foi au moins, tu dois la prendre. Si la prière ne fonctionne pas, prie encore. Mais si elle continue à ne pas fonctionner, ça veut dire que tu as quelque chose à faire. Une résolution à prendre. Ça, j'en suis convaincu. Si vous n'obéissez pas pleinement, écoutez bien, parce que je conclue. Quelques petits mots, et je conclue. Je sais que c'est des choses à assimiler, etc. Je sais que c'est un peu plus difficile, certainement, aujourd'hui. C'est pour ça que je vous demande d'être attentif pour la conclusion au moins. Si vous n'obéissez pas pleinement à ce que Dieu vous dit de faire maintenant, je répète ou pas, vous avez compris, vous n'irez jamais plus loin que vos circonstances actuelles dans le domaine où vous êtes bloqué. D'accord ? On aime bien les promesses positives, mais il y a aussi, c'est pas des promesses, mais c'est des conséquences, c'est un peu négatif. Si vous n'obéissez pas pleinement dans ce que Dieu vous dit maintenant, dans le domaine que toi tu sais, que moi je ne sais pas, rendez-vous dans un an, rendez-vous dans 10 ans, on sera toujours au même point. Tu essayes de trouver une réponse, on est tous pareils, hein, moi aussi, hein. Tu essayes de trouver une réponse qui ne te soit pas trop désagréable. Tu attends quelque chose peut-être de plus facile à faire et qui t'arrange mieux. Mais tu te sens toujours lié. Et tu attends toujours. Tu attends toujours cette chose plus facile, mais elle n'arrive pas. Et tu te sens toujours lié. Tu te sens toujours misérable. Rendez-vous dans un an, ce sera toujours pareil. Pourtant, ce que Dieu veut, et ce qu'il promet, c'est d'être affranchi. On l'a lu, d'accord ? Ça va ? Alors, qu'est-ce que Dieu te dit de faire dans ta situation actuelle ? Pour ne pas qu'on épuise des groupes de prières, des gens qui jeûnent, et des gens qui combattent dans la prière pour rien du tout. Autant épuiser les gens qui ont l'appel à la prière pour des choses et pour des personnes qui sont sérieuses. Vous voyez ? Je suis méchant un peu ou pas ? Non, hein, je ne suis pas méchant. C'est la vérité. Alors dis-moi, plutôt que d'épuiser les autres à demander qu'ils prient pour toi, qu'est-ce que Dieu te dit de faire maintenant dans ta situation, maintenant, là, actuelle ? Sois honnête. Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire par le passé, mais que tu n'as pas fait ? C'est ça la question. Parce que la vérité, nous dit la Bible, nous affranchira. Un, la prière du juste est vraiment très efficace. Et nous avons le pouvoir et la puissance pour délier, pour briser les liens, pour chasser les démons. Il n'y a aucun problème avec ça, c'est hyper facile. C'est le nom de Jésus et parfois il faut un combat dans la prière. Et puis après, il y a la vérité. Comme je l'ai dit, la vérité vous affranchira. L'obéissance. Si ça ne marche pas, c'est la Bible alors. Il y a une erreur dans la Bible. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans le passé que Dieu t'a demandé et qui te redemande aujourd'hui ? Que tu n'as pas fait parce que ça te paraissait trop difficile. Et puis nous revoilà. Et voilà. Bonjour. Qui voilà ? Ça faisait longtemps. Et comment ça va ? Pareil. Pareil. Ben, je vous ai donné un élément de réponse aujourd'hui. Souvenez-vous de ceci. L'obéissance partielle, c'est quoi l'obéissance partielle à ce que Dieu demande ? On peut appeler ça comment, l'obéissance partielle ? Vous n'avez pas une idée, vous ? Merci, Luc. Il y a quelqu'un qui m'écoute. C'est comme ça qu'on appelle ça. L'obéissance partielle, ça s'appelle de la désobéissance. Et la désobéissance nous place sous une malédiction. On l'a vu, hein, comment ça marche. Et comment Satan obtient des droits sur nos vies. Parce qu'il n'a aucun droit en réalité. Il n'a aucune force. Hein, aucune force. Hein. Avec le nom de Jésus, c'est comme une punaise. Oh, parfois une punaise, bon, il faut un peu insister parce que vous dites peut-être parfois il faut un jeûne et une prière. Satan n'a aucune puissance, aucune autorité que celle qu'on lui donne. Mais il ne faut pas lui en donner. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Tu te sentiras misérable. Et tu pourras faire des prières de délivrance autant que tu veux, tant que tu ne fais pas ce que Dieu te demande. Alors, épargne-toi et épargne-nous des prières inutiles et fais aujourd'hui ce que Dieu te demande. Prends une résolution. Amen. Paul dit, je tiens durement mon corps afin de l'assujettir. On a des exemples dans la Bible de gens sérieux. Soyons sérieux. Pour notre église, pour notre vie, pour notre couple, pour notre famille. Amen, j'ai terminé. Que Dieu vous bénisse.